Bonjour frères et sœurs, joyeuse fête des pains sans levain. Nous sommes au dernier jour maintenant. J'espère que la fête s'est bien passée pour vous et que vous aurez une excellente journée aujourd'hui également. Samuel Morse est né dans la maison d'un prédicateur dans le nord-est de ce qui venait juste d'être déclaré les États-Unis d'Amérique, 2 ans seulement après que George Washington ait été élu le premier président du pays. Après avoir terminé ses études à l'université de Yale, il est parti en Angleterre pour perfectionner ses compétences en peinture. À son retour en Amérique, il fut reconnu comme un artiste doué et il était très recherché pour faire des portraits. La première épouse de Morse est décédée alors qu'il était loin de sa demeure pour peindre des portraits à Washington D.C. et il n'a reçu la nouvelle que trop tard pour rentrer et voir son épouse avant sa mort. Dans son chagrin, il a abandonné la peinture, il a commencé à essayer de développer un moyen de communication rapide sur de longues distances. Cela a finalement conduit à sa découverte ou sa création du télégraphe. Malgré sa renommée, il est devenu très très connu et les nombreux honneurs qui lui ont été décernés, Morse n'était jamais fier ni vantard. Dans une lettre à sa seconde épouse, il écrivit ceci. Plus je contemple cette grande entreprise, plus je sens ma propre petitesse, et plus je perçois la main de Dieu en elle, et comment il a assigné à diverses personnes leurs devoirs. Lui étant le grand contrôleur, tous les autres ses instruments honorés. D'où notre dépendance d'abord sur Dieu, puis les uns sur les autres. Lorsque nous marchons dans la fierté, il a continué, et que nous sommes vaniteux de nos talents et de nos réalisations, nous démontrons que nous ne comprenons pas ou n'apprécions pas le rôle que Dieu tient dans tout ce que nous faisons. Aucun de nous n'est capable de réussir par sa propre force ou par sa propre sagesse. Nous devons toujours nous rappeler que c'est Dieu qui rend possible ce que nous faisons. Comme Paul l'a dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» 1 Corinthiens 4, verset 7. Ça, c'est une citation du livre « La vie de Samuel Morse ». Et c'est une bonne introduction au sujet que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, alors que nous terminons la fête des pains sans levain pour cette année. Une des leçons que nous devons tirer de cette fête est l'importance de l'humilité dans nos vies. Lors de la Pâque, nous devons laver les pieds les uns les autres, ça nous met dans la position d'un serviteur. Et pendant la fête, nous ne mangeons pas de pain levé, gonflé, qui serait symbolique du péché, mais aussi de l'orgueil. Nous mangeons des pains sans levain, symbolique de l'humilité et de la justice. Alors aujourd'hui, j'aimerais examiner ce sujet avec vous pour voir ce que la Bible en dit et pourquoi cette qualité est d'une si grande importance dans nos vies. D'abord, une définition. L'humilité, la qualité personnelle d'être exempt d'arrogance et d'orgueil et d'avoir une estimation précise de sa propre valeur. La qualité personnelle d'être exempt d'arrogance et d'orgueil et d'avoir une estimation précise de sa propre valeur. Quelques citations de dictionnaires bibliques à propos de l'idée d'humilité dans la Bible. Le dictionnaire biblique illustré de Holman dit ceci. L'Ancien Testament relie la qualité d'humilité à l'humble expérience d'Israël en tant qu'esclave en Égypte. Un peuple pauvre, affligé, et souffrant. Le mot hébreu traduit par humilité est similaire à un autre mot hébreu signifiant être affligé. Dans la pensée de l'Ancien Testament, l'humilité était étroitement associée aux individus pauvres et affligés. Une citation du dictionnaire biblique de Harper. L'humilité dans le monde biblique est une valeur qui pousse les personnes à rester dans leur statut social hérité. En particulier en ne présumant pas sur d'autres personnes et en évitant même l'apparence de dominer les autres. Les personnes humbles ne menacent ni ne défient les droits d'autrui, ni ne revendiquent plus pour elles-mêmes que ce qui leur a été dûment alloué dans la vie. Ils restent même un pas en dessous ou derrière leur statut légitime. Par exemple, Jean-Baptiste, qui dans Marc chapitre 1 verset 7 a dit « Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers ». Ainsi, l'humilité est une prétention socialement reconnue à la neutralité dans la compétition de la vie. À l'inverse, tenter de s'améliorer aux dépens des autres, acquérir plus que les autres, lutter pour les honneurs dont jouissent actuellement d'autres, sont autant d'exemples de comportements fiers et arrogants. Voilà ce que disent ces deux dictionnaires bibliques. Dans tous les cas, nous allons voir aujourd'hui que Dieu prête attention, il regarde très étroitement nos attitudes d'humilité ou d'arrogance. Il veut trouver le premier, il ne veut pas trouver le deuxième. Et nous allons voir aussi que ce qui se passe à l'intérieur, dans nos cœurs, dans notre fort intérieur, est parfois plus important que ce que nous faisons, nos faits et nos gestes. Par exemple, dans Psaume 51, c'est une bonne façon de commencer. Psaume 51, à partir du verset 18. Psaume 51. Verset 18. C'est le fameux psaume après le péché de David avec Bathsheba, quand il demande pardon à Dieu, il se repent. Au verset 18, nous lisons « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. » Ce que David avait au moment quand il a écrit ce psaume. Un esprit d'humilité, un cœur brisé, la contrition, cette attitude d'humilité est plus importante aux yeux de Dieu que les sacrifices et les holocaustes et certains des gestes extérieurs que nous sommes amenés à exercer. C'est très important aux yeux de Dieu que nous gardions une attitude d'humilité et que nous ne soyons pas arrogants. C'est très, très important. Dans Michée chapitre 6, dans les petits prophètes, Michée chapitre 6, nous voyons que l'humilité est vraiment un devoir de base du chrétien. Michée chapitre 6, verset 8. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu s'attend à ce que nous ayons une attitude d'humilité et de soumission dans nos rapports avec lui. Et nous allons voir dans deux volets, deux grands volets dans ce sermon, que l'humilité est tout d'abord envers Dieu, devant Dieu, mais aussi l'humilité doit se pratiquer envers nos prochains également. Donc, nous allons entamer ce premier volet maintenant de voir ce que la Bible dit à propos de l'humilité devant Dieu. Et nous voyons que l'humilité fait partie de nos services de base. Michée ici résume en trois points le devoir de l'être humain qui veut adorer Dieu, qui veut marcher avec Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Les demandes de base, les devoirs de base, c'est que tu pratiques la justice, obéissance aux instructions de Dieu, que tu aimes la miséricorde, qu'on doit être prêt à pardonner d'autres personnes, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous devons marcher dans l'humilité, selon les définitions que nous avons déjà vues. L'humilité va de pair avec la douceur et la patience. Se supporter les uns les autres est une marque d'humilité, d'être patient et miséricordieux les uns avec les autres. L'impatience est plutôt une marque d'arrogance. Nous sommes tous coupables de l'impatience parfois, moi en premier, et nous devons lutter contre l'impatience avec d'autres personnes qui ne sont pas exactement comme nous et parfois n'ont pas les mêmes capacités ou ils sont un peu moins rapides à faire quelque chose que nous. C'est là où nous devenons impatients. Dieu ne supporte pas l'arrogance. Il ne supporte pas l'arrogance à l'échelle individuelle chez un être humain. Et il ne supporte pas l'arrogance à l'échelle nationale non plus. Les pays peuvent être arrogants également. Regardons 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Verset 28. 2 Samuel chapitre 22, verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Les peuples peuvent être orgueilleux, et Dieu, il sauve ceux qui s'humilient, et il abaisse ceux qui sont arrogants. Ça fonctionne pour l'individu, ça fonctionne aussi pour les pays. Et c'est triste à voir que beaucoup de pays aujourd'hui sont fiers, orgueilleux des bénédictions que Dieu leur a données dans le passé. Nous voyons une autre référence à ceci dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, verset 12. 2 Chroniques chapitre 7. Commençons au verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu prophétisait qu'Israël allait se détourner de lui plusieurs fois. Et à chaque fois, Dieu dit, « Parce que le temple est là, si les gens viennent ici, s'ils s'humilient devant moi, s'ils prient, s'ils recherchent ma face, et s'ils se repentent de leurs péchés, je vais les sauver. Ça sera l'endroit. » Et on voit l'importance de l'humilité. Ça, c'est le début. On doit s'humilier d'abord, et puis on prie dans la bonne attitude. Et on cherche le contact avec Dieu. Et on se détourne de nos péchés. Parce que des personnes arrogantes ne vont pas chercher le péché chez elles. Elles vont penser qu'elles ont raison. Ça, c'est l'arrogance. Alors, nous voyons ici qu'il y a un niveau national à l'humilité. Dieu sauve les peuples qui s'humilient. Et Dieu abaisse les nations qui sont arrogantes. Et c'est une des raisons pour laquelle les pays de l'Occident vont tellement souffrir avant le retour de Jésus-Christ, à cause de leur arrogance, en se détournant les lois et les voies de Dieu. C'est une leçon, l'importance de s'humilier, c'est une leçon que Dieu a enseignée à plusieurs des rois dans la Bible, qui étaient devenus arrogants ou ignorants. Et puis Dieu a dû intervenir pour leur souligner l'importance de l'humilité. Prenons quelques exemples. Deux Rois, chapitre 22. Deux Rois, chapitre 22. Nous allons commencer au verset 3. Deux Rois, chapitre 22, verset 3. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsia, fils de Meshulam, et il dit, monte vers Hilkia, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui était apporté dans la maison de l'Éternel, et ceux qui ont gardé du seuil ont recueilli du peuple, on remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Hilkia, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Un peu délabré, apparemment, il y avait des déchets à l'intérieur. Et ils ont trouvé le livre de la loi. Et Hilkia donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia et aux autres, je ne vais pas prononcer tous les noms, verset 13, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique ce qui y est prescrit. » Le sacrificateur Hilkia et les autres allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tivka, fils d'Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, sur toutes les paroles de livre, selon toutes les paroles de livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous ces malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Dieu a vu l'humilité de ce roi et il a eu miséricorde de lui. Il a dit, la punition va venir, il n'y a pas moyen de l'échapper. Mais toi, à cause de ton humilité, parce que tu étais touché au cœur en te rendant compte de tous les péchés commis par le peuple, tu vivras ta vie normalement, tu vas mourir dans la paix et les malheurs ne viendront qu'après. Dieu a souligné l'importance de l'humilité, d'être touché, de prendre très au sérieux la parole de Dieu, les lois de Dieu, ce que nous voulons, ce que nous devons respecter. Prenons un autre exemple, 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. À partir du verset 20. Achab était l'un des pires des rois de toute l'histoire d'Israël. Il était méchant, il était idolâtre, meurtrier, toutes ces choses. Et pourtant, il s'est humilié, et on va voir ce qui s'est passé. 1 Roi chapitre 21, verset 20. Verset 20. Achab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achia, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel et dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Punition très sévère, il était un méchant homme. Il n'y a eu, verset 25, « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il agit de la manière la plus abominable en allant auprès des idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Maintenant, remarquons la suite, verset 27. Après avoir entendu ces paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Verset 28. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots. « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Il n'y a eu personne aussi méchant qu'Achab. Pourtant, quand il s'est humilié, quand il a montré une contrition devant Dieu, Dieu lui a fait miséricorde. Il lui a fait cette grâce de ne pas devoir voir tout ça de ses propres yeux. C'est intéressant de noter ça. Nous voyons que même les plus méchants, s'ils s'humilient devant Dieu, ils peuvent bénéficier d'une grâce de la part de l'Éternel. Ils n'auront pas la vie belle, sans doute, mais au moins il y a des petites miséricordes. Et Dieu fait noter ces choses, ces détails, dans les histoires, pour souligner pour vous et pour moi l'importance d'avoir une attitude humble devant l'Éternel. Encore une autre. Deux Chroniques, chapitre 33. Deux Chroniques 33. À partir du verset 1. Deux Chroniques 33, verset 1. Ici, nous avons le roi Manassé, qui était un autre très, très méchant homme. De Chroniques 33, verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom sera à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destinés à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi des préceptes et des ordonnances prescrites par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. » Alors, après l'arrogance, la chute. L'Éternel fit venir contre eux, les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans des fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain. En fait, les fers, c'était des crochets, c'est traduit comme cela dans d'autres traductions de la Bible, c'était des crochets qu'on mettait dans le nez, presque comme des hameçons. On les mettait dans le nez et on le dirigeait comme ça. Il avait des mains liées et on le tirait par le nez, comme une bête. C'était une grosse chute pour ce roi. Et les Assyriens étaient connus pour leur cruauté. Je ne vais pas le décrire dans un sermon, il y a des enfants qui écoutent, mais ils étaient terribles pour leur cruauté. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Normalement, ça serait la fin pour un roi. Un roi qui s'est rebellé. On pense que c'était vers l'an 648, quand il y a eu une rébellion à Babylone, et ça a pris quelques années pour étouffer cette rébellion. L'Égypte a profité pour se libérer du joug assyrien, et apparemment Manassé a essayé aussi, mais il n'a pas réussi. Verset 12, donc il est en prison à Babylone. « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. » Ça, c'était étonnant, qu'un roi rebelle soit rétabli comme roi sous les Assyriens, que les Assyriens l'aient permis, c'est miraculeux. Dieu est intervenu pour le faire. Et pourquoi? parce qu'il s'est humilié, parce qu'il priait Dieu, parce qu'il faisait attention à son comportement. Et il a constaté, il a remarqué tout le mal qu'il avait fait. Il s'est repenti, au moins jusqu'à un certain point. Et Dieu a entendu ses prières. Et il a ramené, l'a rétabli comme roi sur son trône en Israël. Ces exemples, les quelques exemples que nous venons de lire, soulignent l'importance et la puissance de l'humilité. Son importance aux yeux de Dieu. Notre relation avec lui doit être très, très respectueuse. Et nous devons être très humbles dans notre approche à la vie. Et ne pas nous mettre en colère contre Dieu quand les choses ne se passent pas comme nous voulons. Nous devons marcher dans l'humilité. Même les pires des rois de cette nation, qui avaient toutes les mauvaises qualités, quand ils se sont humiliés devant Dieu, Dieu a exaucé leurs prières. Ils ont été soulagés dans leur souffrance. Ce qui nous fait poser une question, si les circonstances de notre vie semblent se retourner contre nous, il est bon de nous poser la question, est-ce que je suis vraiment humble? Est-ce que je me suis humilié devant Dieu? Est-ce que j'ai le respect qui s'impose devant l'Éternel? Nous devons rechercher Dieu dans les moments difficiles dans la vie, et quand nous nous humilions devant lui, nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous soulage. Peut-être pas complètement, mais un soulagement. Proverbe chapitre 15 parle également de notre relation avec Dieu et le rôle de l'humilité. Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles devant Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est une humilité, c'est de reconnaître l'écart qui existe entre nous et lui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Quand nous commençons avec un profond respect pour l'Éternel, nous allons devenir plus sages. Et l'humilité, cette crainte de l'Éternel, l'humilité précède la gloire. Si nous sommes humbles, de manière appropriée, selon, devant Dieu, il va nous accorder, à sa façon et au bon moment, il va nous accorder la gloire. Il va nous glorifier. Et quelques pages après, Proverbe chapitre 22, verset 4, Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. Dieu récompense la piété respectueuse. Ce verset énumère deux qualifications spirituelles, l'humilité et la crainte de l'Éternel. Puis énumère trois récompenses, trois résultats, la richesse, la gloire et la vie. L'humilité, ce mot ici, est employé dans le sens religieux. La piété correspond avec la crainte de l'Éternel. Si nous voulons recevoir ces trois grandes bénédictions, et qui ne veut pas les recevoir, la richesse, la gloire et la vie, eh bien nous devons avoir la crainte de l'Éternel et marcher dans cette humilité. Alors ça, c'est une chose importante à garder à l'esprit. À chaque fois que nous nous adressons à Dieu dans la prière, nous devrions prendre un instant avant de commencer à parler, avant de lui parler, et être certain que notre cœur est vraiment bien disposé dans un profond respect pour sa grandeur, avant de lui adresser nos demandes. C'est très important d'avoir cette humilité. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'humilité devant et envers Dieu. Mais est-ce que la Bible parle d'autres applications de l'humilité envers les êtres humains, envers nos frères et sœurs? Eh bien oui. Et une chose que la Bible nous dit, c'est que nos vies, les résultats ultimes de nos vies seront bien différents si nous vivons humblement ou si nous vivons avec arrogance vis-à-vis d'autres êtres humains. Nous sommes dans les Proverbes, revenons un peu en arrière, Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Ignominie, ça veut dire un degré extrême de déshonneur ou d'indignité, résultant d'un outrage public, d'une condamnation ou d'une action infamante, selon Larousse. Ça, c'est ignominie. Je donne la définition parce que c'est probablement pas un mot que nous employons fréquemment dans nos conversations. Mais c'est une indignité extrême. Et voilà ce que la Bible dit à propos de ça. Quand on a l'orgueil, quand l'orgueil ou l'arrogance sont là, eh bien, l'ignominie, la déchéance, va arriver. Mais la sagesse est avec les humbles. Parce que là, nous n'aurons pas l'ignominie, mais plutôt, comme nous avons vu dans d'autres passages, la gloire. L'humilité évite la disgrâce et conduit à la sagesse. Orgueil, le mot pour orgueil ici est littéralement une ébullition qui jaillit. Ça, c'est l'orgueil. Un dépassement des limites, de l'insubordination. Ça, c'est l'orgueil qui est ici. L'humilité décrit ceux qui connaissent leur place. Les orgueilleux verront leurs égaux dégonflés. La disgrâce. L'appétit dit « Soyez sensuels, amusez-vous ». L'éducation dit « Soyez ingénieux, développez-vous ». Le matérialisme dit « Soyez satisfaits, faites-vous plaisir ». La psychologie dit « Soyez confiants, réalisez-vous ». La fierté dit « Soyez supérieurs, favorisez-vous ». L'humanisme dit « Soyez capables, croyez en vous ». Mais Dieu dit « Soyez sages, humiliez-vous. » Et c'est l'attitude que nous devrions toujours viser. Un écrivain du nom d'André Murray a dit ceci. « L'humilité est la tranquillité parfaite du cœur. C'est ne rien attendre, ne s'étonner de rien de ce qui m'est fait, ne rien sentir qui soit fait contre moi. C'est être tranquille quand personne ne me loue et quand je suis blâmé ou méprisé. C'est d'avoir une maison bénie dans le Seigneur où je peux entrer et fermer la porte et m'agenouiller devant mon Père en secret et être en paix, comme dans une mer profonde de calme, quand tout autour et au-dessus est trouble. » Ça, j'ai trouvé une excellente description de l'humilité. Quand nous avons une attitude humble, nous n'allons pas être blessés par tout ce qui se passe dans la vie. Si nous sommes facilement blessés, c'est qu'il nous manque d'humilité. Regardons aussi Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Des passages dans le Nouveau Testament insistent sur ces qualités également. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. » Première chose qu'il mentionne, pour marcher dignement dans la vocation que nous avons reçue de la part de Dieu, l'humilité doit être là tout de suite au début. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Toutes ces qualités-là vont ensemble. Humilité, douceur, patience, supporter les uns les autres avec amour et chercher l'unité au sein du corps du Christ. Toutes ces qualités-là sont des bases. C'est vraiment le fondement pour un chrétien. Si l'arrogance prend le dessus, eh bien, toutes sortes de malheurs vont suivre. Maintenant, j'ai trouvé une liste en faisant des recherches pour ce sermon. J'ai trouvé une liste qui m'a interpellé. C'est une journaliste qui se spécialise dans la psychologie de la motivation. Il s'appelle Cassie Imafidon. Et il a écrit une liste de 15 signes qu'on est arrogant, même si on ne le pense pas l'être, même si on ne le voit pas. Et je trouvais que c'était intéressant, j'y ai réfléchi, je me suis examiné à la lumière de ces différents points, et je vous invite à faire de même. Chacun doit le faire pour lui-même. Alors voilà ce qu'il a écrit. Et il va dire, vous, moi je ne vous vise pas personnellement, mais il a écrit ceci, vous faites cela, alors probablement vous avez de l'arrogance. Alors premièrement, vous êtes constamment en retard. Tout le monde est en retard de temps en temps. Cependant, si on le fait constamment et parfois intentionnellement, cela pourrait être un signe que vous êtes arrogant, parce que vous semblez avoir l'impression que votre temps a plus de valeur que le temps des autres. Vous pouvez les faire attendre jusqu'à ce que vous arriviez. Alors c'est un signe, vous êtes constamment en retard. Deuxièmement, vous interrompez souvent les autres dans la conversation. Lorsque vous interrompez souvent les autres pour montrer que vous avez quelque chose de plus important à dire que ce qu'ils disent, cela signifie que vous avez peu de considération pour l'opinion des autres. Signe d'arrogance. Troisièmement, vous pensez que vous êtes meilleur que les autres. Que ce soit en termes d'apparence, d'intelligence, de statut, le fait de penser qu'on est meilleur que les autres signifie de l'arrogance. Quatrièmement, vous faites tout votre possible pour avoir raison. Vous devez avoir raison à chaque fois. Vous ne pouvez pas simplement accepter que vous avez tort, que vous pouvez tromper, pas du tout, non, toujours raison. Après tout, ce qui est dit est fait, vous avez raison. Cinquième point, vous pensez que votre statut est plus important que la contribution que vous apportez. Vous pensez que votre statut est plus important que la contribution que vous apportez, surtout au travail, mais même dans d'autres activités. Lorsque vous souhaitez prendre un emploi ou une tâche, vous vous concentrez d'abord sur le titre ou le statut qui s'y attache. Vous êtes plus intéressé par la façon dont le travail vous fera sentir plutôt que les engagements impliqués, l'effort que vous devez déployer pour faire ce pourquoi on vous a engagé. Sixièmement, lorsqu'on vous demande « pouvez-vous faire ceci ?», vous dites toujours « oui », parce que vous ne pouvez pas donner l'impression d'être incapable en quoi que ce soit. Vous pouvez tout faire, vous pouvez accomplir n'importe quoi. Septièmement, les gens vous disent régulièrement de leur donner l'occasion de prouver leur capacité. Si les gens doivent vous demander « mais laissez-moi vous montrer, laissez-moi prouver que je peux le faire », c'est que quelque part dans l'attitude, vous donnez l'impression que non, vous êtes incapable, vous ne pouvez pas faire ça. Vous semblez remettre en question la capacité de chacun à accomplir une tâche. Peut-être que ça veut dire qu'on pense être le seul à pouvoir faire ce travail ou le faire aussi bien, etc. Huitièmement, vous méprisez les faibles en n'importe quel domaine. Vous ne pouvez pas tolérer les gens qui montrent des signes de faillibilité. Si quelqu'un renonce à accepter la responsabilité, à prendre en charge une situation, vous les méprisez. Ça serait de l'arrogance. Neuvième point qui suggère, vous avez du mal à réfléchir sur vous-même, avoir mal à s'examiner profondément pour voir ce qui va et surtout pour voir ce qui ne va pas. Vous avez du mal à regarder le miroir psychologique pour voir comment on est vraiment. Du mal à réfléchir sur soi-même, du mal à s'examiner. Dixième, vous aimez qu'on parle de vous. Vous aimez qu'on parle de vous. Chaque fois qu'il y a une discussion, vous aimez que la discussion porte sur vous. Lors d'une réunion, d'un rassemblement, vous voulez que l'attention soit sur vous. Et s'il s'agit d'un sujet général, de discussion, vous voulez que tout le monde soit d'accord avec votre avis. Sinon, vous allez le convaincre qu'ils ont tort et vous avez raison. Vous aimez qu'on parle de vous. Onzièmement, vous considérez les personnes que vous n'aimez pas comme des ennemis ou des menaces. Je n'aime pas, il doit manigancer quelque chose contre moi. Si vous pensez aux personnes que vous n'aimez pas trop, est-ce que vous les considérez comme des menaces pour votre monde parfait? Si c'est le cas, ça serait un signe d'arrogance. Douzième, vous ne supportez pas les gens qui ne sont pas comme vous. Vous voulez que tout le monde soit comme vous, et vous avez du mal à parler positivement de quelqu'un qui n'est pas comme vous, qui est différent. 13e, vous avez des difficultés à établir des relations. Des difficultés à établir des relations. Les gens ont du mal à venir vers vous. Très probablement, la qualité négative de l'arrogance a un moyen de détourner les gens. On n'aime pas, nous n'aimons pas être avec des gens qui sont arrogants. 14e, vous protégez votre infériorité avec un complexe de supériorité. Puisqu'on se sent inférieur à l'intérieur, on doit projeter une image de force. Donc, on projette une complexe de supériorité. Et 15e, vous montrez un faux charme, mais en dessous, il y a de la cruauté. On peut faire des remarques blessantes, faire beaucoup de mal aux gens. On projette une image affable, capable, mais en dessous, dans le cœur, il y a un élément de cruauté. Je pense que c'est utile pour nous tous de nous examiner à la lumière de ces différents points, de dire est-ce que ça m'arrive parfois, est-ce que ça peut m'arriver de faire ceci ou cela. Et si nous voyons qu'il y a un élément de numéro X ou Y ici, eh bien nous devrions établir un plan pour remédier à ça. Je vais m'arrêter. Quand je commence à faire ça, je vais m'arrêter. Je vais me taire, je vais partir, je vais faire autre chose. Mais nous ne voulons pas tomber dans ce genre de situation, ce genre d'habitude, parce que ça devient une habitude. Nous avons vu tout à l'heure, vers le début du sermon, qu'un des aspects de l'humilité, c'est d'avoir une estimation précise de sa valeur personnelle. Et quand nous voyons des attitudes d'humilité, c'est impressionnant. Quand nous voyons quelqu'un qui peut se taquiner un peu lui-même ou rire un petit peu de ses faiblesses, nous admirons ces personnes-là. Et j'ai trouvé quelques exemples de l'histoire. Pendant la guerre civile américaine, quelqu'un a rapporté au président Abraham Lincoln que l'un de ses ministres, Edwin Stanton, l'avait qualifié d'imbécile. Monsieur Lincoln a répondu, « Eh bien, je vais devoir vérifier cela, car j'ai constaté qu'il a le plus souvent raison dans ses jugements. » C'est une chose qu'on aimait beaucoup de Lincoln, il était vraiment un homme très humble. On a demandé un jour à Winston Churchill, « Cela ne vous fait-il pas plaisir de savoir qu'à chaque fois que vous allez faire un discours au Parlement, la salle est pleine à craquer ?»« C'est assez flatteur, en effet, » a répondu Mr. Churchill, « mais chaque fois que je ressens cela, je me souviens toujours que si au lieu de faire un discours politique, on me pendait par le cou, la foule serait deux fois plus impressionnante. » Et lui aussi, il pouvait faire, pratiquer souvent ce genre d'humour en rigolant de lui-même. Évidemment, l'exemple le plus frappant de l'humilité dans la Bible, c'est celui de Jésus-Christ. Imaginez, son humilité est presque inimaginable puisque nous comprenons à peine ce que c'est d'être Dieu. Et il s'est séparé de tout cela pour devenir un être humain et pour mourir à notre place, pour nous sauver la vie. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il dit, je suis humble de cœur, et c'est vrai. Il a montré, on n'a pas besoin de ses paroles, bien que les paroles nous sont utiles, mais l'exemple qu'il a montré d'être le créateur de toutes choses, et puis de se dévestir de cela et de devenir un être humain. Et un être humain pauvre, pas très respecté, et qui est mort atrocement afin de donner la vie à sa création, qui était très inférieure, tous les êtres humains très très inférieurs à Dieu. Quand nous considérons tout ce que Jésus a accepté de faire et de subir pour nous sauver, ça nous dépasse. C'est complètement étonnant que Dieu ait accepté de le faire. Ça montre son humilité, sa grandeur et son amour pour sa création. Paul cite son exemple dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà son exemple. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est le grand exemple. Si Jésus-Christ, si Dieu peut s'humilier à notre niveau, comment est-ce que nous oserions ne pas être humbles les uns avec les autres? Ça serait un non-sens. Ça serait vraiment ridicule. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ça, c'est une chose à demander dans la prière. Père, aide-moi à avoir les sentiments en moi qui étaient en Jésus-Christ. Et encore une fois, ça commence par l'humilité. Regardons un dernier passage dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 5. Il y a une formulation intéressante ici à propos de l'humilité. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'aime bien ce formule. Revêtez-vous d'humilité. C'est comme si on met un grand manteau qui couvre tout. Nous sommes complètement habillés par l'humilité. Ça, c'est une image, je crois, que nous devrions garder à l'esprit. Chaque matin, nous ne devrions pas sortir de chez nous sans avoir mis notre grand manteau d'humilité que nous allons garder avec nous tout au long de la journée. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtons-nous, frères et sœurs, d'humilité. Chaque jour, avant de quitter la maison, sitôt que nous nous levons le matin, revêtons-nous d'humilité pour que Dieu nous fait grâce et pour que nous puissions ressembler étroitement à Jésus-Christ qui est notre exemple en toutes choses. Je vous souhaite une excellente fin de la fête des pains sans levain.